Mesdames, Messieurs, j'ai le grand plaisir de vous présenter Claire Magone, donc, qui est diplômée en sciences politiques à Paris 1 et de communication au CELSA, qui a fait plusieurs missions humanitaires pour Action contre la faim et Médecins sans frontières au Libéria, en Sierra Leone, au Nigeria et au Soudan. Elle a dirigé les programmes internationaux de SIDAction. Et donc Claire Magone est actuellement directrice de recherche au Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires de Médecins sans frontières. Elle est par ailleurs enseignante à Sciences Po dans le programme donc, de la spécialisation santé mondiale de l'École des affaires internationales de Paris. Et j'espère que je n'ai rien oublié, Claire. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être avec nous pour nous présenter la réflexion de Médecins sans frontières sur l'action humanitaire et les savoirs humanitaires dans le monde très changeant dans ce domaine actuellement.
Bonjour à tous et merci beaucoup Dominique de me laisser cette opportunité de parler du point de vue d'un acteur humanitaire d'un sujet que vous avez, pour certains d'entre vous, si j'ai bien compris, parcouru à travers les cours organisés par Dominique tout au long de ces dernières semaines. Donc le point de vue d'un acteur médical humanitaire dans ce champ dit de la santé globale, la santé mondiale, puisque c'est le thème un peu générique autour duquel nous sommes réunis. Alors, je vais situer un peu mon point de vue pour en restituer la modeste portée, disons-le ainsi. Donc, en effet, je travaille à Médecins sans frontières, j'ai une pratique de terrain à Médecins sans frontières, et maintenant, je suis dans ce petit think tank qui s'appelle le CRASH, le Centre de recherche sur l'action et les savoirs humanitaires, qui est abrité par la Fondation de Médecins sans frontières. Et j'ai la chance de travailler dans une organisation humanitaire médicale qui a 40 ans d'existence, qui travaille dans de très nombreux pays, qui a plusieurs dizaines de projets dans le monde entier, qui travaille avec 25 000 personnes sur le terrain, dont 90% d'employés nationaux et 10% de personnel international, et qui laisse la possibilité d'exprimer des points de vue individuels sur les pratiques de Médecins sans frontières sur le terrain. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas, comment dire, je ne vais pas faire le prêche de mon organisation, mais plutôt tenter de naviguer avec vous autour de quelques-unes des questions difficiles qui se posent à un acteur médical humanitaire comme Médecins sans frontières. Organiser une campagne de vaccination contre la rougeole lors d'une épidémie au Niger. Prendre en charge la malnutrition des enfants de moins de 5 ans en donnant la possibilité à leur mère de leur administrer directement des produits nutritionnels thérapeutiques adaptés à leurs besoins alimentaires au Mali. Prendre en charge un camp de réfugiés, une population dans un camp de réfugiés, de l'approvisionnement en eau potable à l'administration des soins primaires. Voilà quelques-unes des actions que Médecins sans frontières mène dans les pays où elle intervient et qui la situe de fait dans le champ dit de la santé mondiale, encore une fois que nous avons parcouru avec Dominique depuis le mois de février. Quelle place un acteur humanitaire médical comme Médecins sans frontières joue dans ce concert ? Quel rôle une organisation comme MSF défend ? Et quel intérêt elle promeut ? Voilà quelques-unes des questions que j'espère nous allons pouvoir discuter ensemble à travers deux contextes. L'un qui est lié à un contexte de paix, je vais parler dans un instant du Nigeria, et l'autre, un terrain d'intervention privilégié des acteurs humanitaires tels que Médecins sans frontières, un terrain de guerre, en l'occurrence celui de l'Afghanistan. Je pense que ça a été aussi un des intérêts de ces cours sur la santé mondiale, c'est de montrer que le champ de la santé mondiale n'est pas un champ homogène. Il y a bien une diversité, une hétérogénéité des intérêts dans ce champ de la santé mondiale. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce que le slogan un peu trompeur que met parfois en avant la rhétorique des acteurs de la santé mondiale, problème commun, besoin commun, la détermination des priorités de santé d'une population n'est pas définie de façon homogène par les populations elles-mêmes, les autorités sanitaires et administratives qui les gouvernent et ces fameux acteurs de la santé transnationale qui tentent de mettre en place des politiques à l'échelle mondiale qui vont évidemment affecter ces populations. On n'est pas là dans un... Il n'y a pas de cercle vertueux dans lequel toutes ces déterminations de priorité s'emboîteraient harmonieusement les unes dans les autres et impliqueraient des systèmes de coopération qui feraient que l'ensemble du monde convergerait pour un monde meilleur, plus juste, plus sûr et en meilleure santé. Et j'ai envie de dire, mais c'est peut-être ma déformation professionnelle, j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'un monde qui convergerait de façon aussi emboîtée et pyramidale vers des priorités sanitaires déterminées par tous, pour tous, les mêmes en même temps, on peut appeler ça une utopie dans le meilleur des cas, on peut aussi appeler ça un système totalitaire dans le pire des cas. Donc je pense que c'est quelque chose avec lequel il faut savoir naviguer, surtout du point de vue d'un acteur humanitaire, et qu'il faut savoir respecter. Et je vais, avant d'aborder le contexte de guerre, je voudrais cheminer avec vous autour de cette réflexion-là à travers une question de santé publique mondiale traitée avec une grande... qui mobilise énormément d'attention de la part des bailleurs de fonds internationaux et des acteurs de la santé dite globale, et qui illustre très bien ce grand écart entre des priorités sanitaires telles qu'elles sont perçues par la population et telles qu'elles sont définies de l'extérieur. Il s'agit du combat de l'éradication contre la poliomyélite. Qu'est-ce qu'il y a a priori de plus fédérateur que la perspective d'éradiquer une maladie sur le globe terrestre? A priori, qui a envie d'être affecté par cette maladie, d'être infecté par le virus de la poliomyélite, qui, comme vous le savez sans doute, puisque c'est une maladie qui n'y a pas si longtemps touché encore l'Europe, qui peut entraîner des handicaps extrêmement lourds, des paralysies parfaitement invalidantes, et dans certains cas, aller jusqu'à la mort. Médecins sans frontières en a elle-même été le témoin et l'acteur, j'ai envie de dire, lors d'une épidémie de poliomyélite particulièrement meurtrière qui a eu lieu au Congo-Brazzaville en 2010, lors de laquelle, sur les 480 cas de paralysie flasque qui avaient été recensés, 180 personnes sont décédées. Donc une mortalité extrêmement importante et qui ont laissé les équipes de Médecins sans frontières dans un grand désarroi parce qu'il y a très peu... La science a fait très peu pour la question de la prise en charge des patients affectés de poliomyélite. Et ça renvoie sans doute aux limites de la science, mais aussi, il faut avoir l'humilité de le reconnaître, dans certains cas, à la nature même de la maladie. C'est une maladie, quand elle atteint ses formes, les formes dont je parle, qui a donc des conséquences extrêmement graves. Donc, a priori, une maladie que personne ne souhaite avoir et un objectif, encore une fois, qui semble devoir fédérer tous les efforts, c'est celui d'éliminer cette maladie du globe terrestre. Cette volonté-là, elle a été affirmée dès 1988 par un groupement mondial qui s'est réuni autour de cet objectif, l'éradication de la poliomyélite, à un moment où il y avait des centaines de milliers de cas dans le monde. Et cet objectif d'éradication a suscité beaucoup d'enthousiasme parce qu'il s'inscrivait, on était encore dans le sillon d'enthousiasme provoqué par la disparition de la variole à l'échelle du monde. Donc ce paradigme de l'éradication comme horizon mobilisateur des ressources et des moyens était vraiment quelque chose qui, dans les années 80, a été vraiment porteur. Et de fait, en quelques années, à force d'efforts et de campagnes de vaccination dans tous les pays du Sud, avec le vaccin oral particulièrement facile à administrer aux enfants, les progrès ont été spectaculaires. Et on est passé de plusieurs centaines de milliers de cas à la fin des années 80 à quelques milliers de cas dans les années, à la fin des années 90, au début des années 2000. À tel point que, finalement, assez rapidement, les partisans, les promoteurs de l'éradication de la poliomyélite en ont fait un combat quasiment gagné d'avance. Et ça fait maintenant presque 10 ans qu'on entend parler. Je ne sais pas si vous connaissez cette problématique-là, mais il vous suffira de regarder sur Google. Le terme consacré, qui est vraiment employé beaucoup par l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, le Rotary, ou maintenant la Fondation Bill Gates, qui en a fait un horizon personnel. L'idée qu'il ne reste plus que quelques mètres à franchir pour en arriver à l'éradication totale de la maladie. En anglais, le terme consacré que vous trouvez dans la littérature, c'est « the last mile ». Malheureusement, sur la route de ces derniers kilomètres, des obstacles très très grands sont apparus, à tel point que cet horizon qu'on pensait atteindre semble relever de plus en plus du mirage. Je m'explique. Comme je vous le disais il y a quelques minutes, dans les années 90, la fin des années 90, au début des années 2000, le nombre de cas de poliomyélite avait drastiquement diminué, n'était plus endémique que dans quelques pays, l'Inde, le Pakistan et le Nigeria. Et dans ces pays, et notamment au Nigeria, sur lequel je vais m'apesantir un peu, l'OMS a décidé, donc galvanisé par cette idée qu'on y est presque, ce sentiment de combat presque achevé, a décidé d'y redoubler d'efforts. Qu'est-ce que ça veut dire redoubler d'efforts pour vacciner des populations dans un contexte comme le Nord-Nigeria, que je connais assez bien pour y avoir été chef de mission en 2006 ? Le Nord-Nigeria, c'est une zone extrêmement peuplée, qui est une poudrière épidémique permanente. Elle se situe dans la ceinture dite de la méningite, donc régulièrement il y a des épidémies de méningite au Nigeria. Pour des raisons dans lesquelles, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces raisons, le Nord-Nigeria a un système de réponse aux épidémies et en général un système sanitaire extrêmement dysfonctionnel, croisement d'un historique qui date d'une bonne trentaine d'années et d'un manque de volonté politique de faire de l'accès aux soins pour tous un combat prioritaire. Donc on a des taux de vaccination en général extrêmement bas au Nigeria, de l'ordre, au début des années 2000 en tout cas, de 10 à 15% par exemple pour la vaccination complète chez les enfants de moins d'un an. Donc le Nord-Nigeria, et MSF, on l'a éprouvé quotidiennement pendant très longtemps. Je parlais de poudrière, c'est donc une poudrière épidémique qui explose. Épidémie de rougeole, épidémie de méningite, épidémie de choléra et épidémie de malnutrition aussi, même si la malnutrition n'est pas une maladie infectieuse, mais le nombre d'enfants mal nourris au Nord-Nigeria est également extrêmement important. Dans ce contexte-là, au moment où l'OMS a décidé de redoubler d'efforts, et donc concrètement ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'elle a envoyé plus d'équipes de vaccination, faire du porte-à-porte chez les gens au Nord-Nigeria. Donc, il faut se représenter ce que ça veut dire pour des populations qui, par ailleurs, n'ont pas accès aux soins, n'ont pas la possibilité de faire vacciner leurs enfants contre la rougeole parce qu'il n'y a pas les vaccins, parce qu'il n'y a pas, encore une fois, la volonté, parce qu'il n'y a pas la structure, de voir arriver 4, 5, 6, 10 fois par an chez eux des gens qui frappent à votre porte et qui vous disent faites-nous confiance, c'est pour votre bien, et qui inoculent ces petites gouttes qui sont censées donc immuniser les enfants contre la poliomyélite. Je restitue cette réalité-là parce que ce n'est pas sur ce mode-là que la résistance grandissante de la population nigériane à la volonté d'éradiquer la polio a été racontée dans la littérature consacrée à ça. En 2003, les autorités nord-nigérianes décide de boycotter la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Elle décide de le boycotter et il y a des rumeurs qui enflent au sein de la société nord-nigériane, relayées par les médias, des rumeurs sur les vaccins contre la poliomyélite qui seraient contaminés par des agents stérilisants. L'idée donc que ces vaccins seraient la manifestation d'un complot occidental contre le monde musulman, le nord-nigérian étant musulman, etc. Et c'est vraiment sur ce mode-là que le boycott de la vaccination contre la poliomyélite a été encore une fois traité, notamment par les acteurs de la santé mondiale. Et ce qu'on a opposé, c'est cette espèce d'idée presque sacralisée que l'éradication de la poliomyélite est un combat dont on ne peut pas remettre en cause la légitimité, contre l'obscurantisme et l'ignorance de la population. Donc le combat en fait, des acteurs de la santé mondiale à ce moment-là, ça a été vraiment de lutter contre ce qu'ils croyaient être, encore une fois, un problème de compréhension de la part de la population sur les bienfaits de la vaccination contre la poliomyélite et de la part des autorités sanitaires, un obscurantisme qui leur semblait révélateur à l'époque aussi d'un raidissement religieux par ailleurs en cours au nord du Nigeria à cette époque-là. Or, la réalité est plus complexe et le meilleur moyen, je pense, d'en rendre compte ici, c'est de vous lire un extrait d'une interview qui avait été retranscrite à l'époque dans un journal nigérian et qui est un extrait donc, d'un entretien entre une représentante de l'Organisation mondiale de la santé qui avait été envoyée pour convaincre les autorités politico-religieuses du Nigeria de renoncer au boycott et de pousser la population à se faire vacciner. Et donc là, l'entretien dont je vais vous lire un extrait, c'est entre la représentante de l'OMS et l'émir de Kazaoré, qui est donc une figure politico-religieuse du nord nigérien. C'est une traduction libre. Donc, la représentante de l'OMS dit à l'émir « Votre Altesse royale, j'ai été envoyée au Nigeria pour couvrir les activités de l'OMS et en particulier pour venir à bout de la poliomyélite. Dans mon pays, le Zimbabwe, la polio a été éliminée. L'OMS est déterminée à éradiquer la maladie dans son intégralité. Pour que l'Afrique soit exempte de poliomyélite, tous les pays africains doivent garantir l'éradication totale de la maladie par la vaccination. Au Zimbabwe, les gens ont d'abord refusé de se faire vacciner leurs enfants à cause d'une croyance populaire selon laquelle les personnes vaccinées se transformaient en cochons. L'acte de vaccination ne leur avait pas été correctement expliqué. Je veux simplement dire, Votre Altesse, que nous ne pouvons pas mener à bien notre mission sans votre bénédiction et votre soutien, car vous êtes le père du peuple. Je vous remercie. » Et la réponse de l'émir, qui est savoureuse, « Je vous remercie vivement de votre visite. Je dois dire que vous avez parfaitement récité le manuel de sensibilisation de l'OMS et que vous êtes convaincante quant à votre mission dans notre pays. J'ai consulté ce guide moi-même et j'ai constaté sa qualité et son agressivité. En 2000 et 2001, quand nous avons fait part de nos peurs et nos préoccupations, quant à la possibilité que ce vaccin contienne des substances qui peuvent stériliser la population, on nous a répondu que les médicaments étaient certifiés par l'OMS et fabriqués dans le meilleur environnement de fabrication et que le vaccin ne contenait aucun autre ingrédient. Nous voulions des preuves concrètes, mais nous n'avons eu que des paroles. Pour répondre aux craintes de notre peuple, nous avons donc dû conduire nos propres investigations en consultant des livres, en faisant des recherches sur Internet. Tous les livres et les documents que vous voyez ici concernent la polio. Alors, madame, vous pouvez constater que les appréhensions de mon peuple ne sont pas les mêmes que celles du Zimbabwe, où les gens pensaient que le vaccin allait les transformer en cochons. Nos craintes relèvent plutôt de questions médicales. Quand vous venez vacciner la population, vous nous dites que vous avez atteint 60, 70 ou 100 000 personnes, que tous les enfants de l'État sont vaccinés. Puis vous revenez le lendemain et nous dites qu'il y a eu un nouveau cas et qu'il faut revacciner tout l'État. Qu'est-ce que cela traduit de l'efficacité du vaccin? Nous commençons à voir pourquoi certaines de ces questions n'ont pas de réponse. Aux États-Unis, par exemple, il y a un système de surveillance des effets secondaires du vaccin, mais nous n'avons pas de tel système ici. Personne ne sait ce qui se passe. Vous venez, vous vaccinez, vous collectez de l'argent et l'année suivante, vous revenez vacciner les mêmes enfants. Mais que cherchez-vous? Que cherche l'OMS? Que cherche l'UNICEF? Pourquoi cet acharnement? Combien d'argent dépensé au Nigeria pour enrayer 109 cas? Combien d'enfants meurent de la rougeole, du paludisme, de diarrhée? Je trouve que cet entretien contient, en quelques lignes cette idée vraiment de grand écart entre des priorités sanitaires et des combats qui ne se rejoignent pas tout à fait. Dans cet entretien, donc, l'émir de Cazorée exprime ce décalage, mais il questionne aussi l'acharnement des partisans de l'éradication. Pourquoi cet acharnement ? Quand on regarde la façon dont les partisans de l'éradication de la poliomyélite en promeuvent la légitimité, et il suffit de regarder sur le site internet, encore une fois, du groupement d'éradication contre la poliomyélite, on trouve des arguments d'ordre symbolique. L'éradication, c'est un horizon motivant à l'échelle d'une génération. Ce sera l'accomplissement d'une génération si on y parvient. On trouve aussi un argument d'ordre financier. C'est tout à fait important. La stratégie d'éradication du virus, c'est un horizon motivant pour les bailleurs de fonds, parce que l'idée d'éradiquer une maladie, et donc de mettre des moyens financiers dans un temps court, ou en tout cas on espérait qu'il fût court, est plus motivant que l'idée de devoir contrôler la maladie et de devoir financer ad vitam aeternam des stratégies de contrôle et d'endiguement. Et enfin, des raisons sécuritaires, la présence du virus quelque part, c'est une menace pour le monde entier. On voit bien la difficulté, et tous ces objectifs-là sont louables en soi, il ne s'agit pas de les condamner, ils reflètent bien, et je pense qu'il n'y a absolument pas de mystère autour de pourquoi l'éradication de la poliomyélite est un combat qui mobilise tant les bailleurs de fonds et les acteurs de la santé mondiale. Mais on voit bien que ces types de priorités-là, par rapport aux priorités de la santé, priorités de santé déterminées par la population nord-nigérienne pour elle-même, ne sont pas tout à fait conciliables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut admettre, et c'est quelque chose, je pense, qui est essentiel pour un acteur médical humanitaire comme MSF, il faut admettre, reconnaître et savoir naviguer avec ces divergences de points de vue sur qu'est-ce qui est important du point de vue de la santé des populations. Et plutôt que de tenter de faire du marketing social et donc de convaincre à toute fin les populations qu'on veut leur bien, ou plutôt, version bien pire encore, plutôt que de vouloir faire preuve de coercition pour les faire adhérer. Je dis ça parce que les autorités nord-nigérianes, depuis l'épisode du boycott de 2003, ont changé. Elles ont changé, ce n'est plus les mêmes autorités politiques. Et maintenant, elles ont le même État, notamment l'État de Kano, Nord-Nigéria, qui s'était vraiment illustré en étant le plus rétif à la vaccination contre la poliomyélite, maintenant est celui qui y met le plus d'ardeur. Et le gouverneur de Kano a récemment déclaré que les parents qui se déroberaient à la vaccination de leur enfant pourraient être mis en prison. Et il a même annoncé comme programme politico-sanitaire que les enfants seraient vaccinés jusque sous les lits et que pour ça, il allait déployer des équipes qui allaient redoubler encore une fois d'efforts pour aller dans chacune des maisons vérifier que les enfants sont bien vaccinés. Donc, pour une ONG médicale humanitaire comme MSF, l'idée d'utiliser la coercition pour promouvoir des objectifs de santé publique, c'est forcément quelque chose avec lequel on est plutôt mal à l'aise. Et l'idée que, au contraire, l'idée que pour atteindre des bénéfices pour la santé d'une population, on doit susciter et créer l'adhésion de la population aux services qu'on prétend leur offrir, c'est quand même une idée, me semble-t-il, à la base de ce que MSF a appris à faire et promeut. Donc, cette idée donc, de l'adhésion de la population, puisqu'on parlait des intérêts qui motivent un peu l'action d'une ONG médicale humanitaire. Et la deuxième chose, je parlais de l'éradication de la maladie, là où ce combat contre la poliomyélite n'est pas un combat dans lequel MSF s'associe, par exemple, alors que, comme je vous le disais, par ailleurs, MSF doit traiter parfois, enfin prendre en charge les cas de poliomyélite quand il y a une épidémie, c'est aussi l'idée qu'un acteur humanitaire est davantage intéressé par le traitement des malades que par le traitement des maladies. entre ces deux aspects, on pourrait penser qu'il n'y a rien qu'une finesse terminologique, alors que ce n'est pas du tout la même chose de vouloir prendre en charge des malades que de vouloir s'attaquer à des maladies. Et parfois, l'intérêt des malades n'est pas forcément l'intérêt de la lutte contre la maladie. Pour prendre un exemple concret auquel MSF a aussi été associé, c'est l'exemple de la tuberculose, où dans un objectif de santé publique pendant très longtemps, ce qu'on faisait avec la tuberculose, dans un objectif de santé publique, c'était ne soigner que les patients qui crachaient le bacille et donc qui étaient contagieux pour le reste de la communauté, en négligeant totalement les patients dits extrapulmonaires, tout aussi malades, tout aussi voués à des souffrances, voire à la mort, mais qui étaient mis sur le côté parce que peu contaminants. Donc on voit bien là qu'il y a des tensions très fortes entre des objectifs de santé publique et des objectifs, on va dire, qui relèvent plus de ce qu'une ONG humanitaire va revendiquer comme objectif étant les siens, qui sont la prise en charge des malades. Ce long détour par l'éradication de la poliomyélite, c'est pour mieux rentrer dans le sujet de la guerre. Pourquoi je suis passée par ce détour-là? C'est pour montrer que, encore une fois, le champ de la santé globale, ce n'est pas comme certains acteurs de ce champ tendent à le montrer, une espèce de symphonie, de concert où chacun jouerait sa partition dans un même objectif et dans un même but, mais c'est bien un champ de bataille traversé de tensions et de volontés parfois contradictoires. Et évidemment, dans une situation de conflit armé, ce champ de bataille se double d'une difficulté supplémentaire, c'est qu'il y a non seulement les populations qui entendent avoir un mot à dire sur leurs priorités de santé, les autorités sanitaires, politico-administratives et sanitaires dites légitimes, les acteurs transnationaux dont on parlait, mais il y a aussi les belligérants eux-mêmes, les parties au conflit. Qu'on le veuille ou non, les parties au conflit, dans un conflit, ont leur mot à dire, de fait, à partir du moment où ils contrôlent une population et un territoire, de fait, sont un des acteurs qui contribuent à la détermination des priorités de santé de la population. Et pour un acteur médical humanitaire, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Le livre dont parlait Dominique, qui s'appelle « Agir à tout prix », et que nous avons co-dirigé avec mes collègues du CRASH, part de ce postulat, qui est que des actions de santé mises en œuvre par une ONG médicale humanitaire ne peuvent pas s'imposer, que par ailleurs, une ONG médicale humanitaire ne bénéficie pas d'une espèce de total champ d'action, une espèce de liberté d'action, un espace humanitaire qui lui serait dédié, dans lequel elle aurait le monopole de l'assistance, juste parce qu'une ONG médicale humanitaire pourrait se prévaloir de qualité morale supérieure à celle d'autres acteurs. Non, l'acteur médical humanitaire doit pouvoir, pour défendre ses intérêts, j'ai envie de dire, doit connaître ceux des autres parties prenantes, composer avec eux et négocier pour parvenir à un accord et parvenir à atteindre des compromis qui lui semblent acceptables entre les intérêts que l'organisation défend et ceux de ses parties prenantes. Alors, quels peuvent être les intérêts d'une ONG médicale humanitaire comme MSF dans un contexte comme l'Afghanistan? L'Afghanistan, disons, d'après la chute des talibans, d'après 2001. J'ai envie de dire, c'est un objectif à la fois très, très modeste et très ambitieux. L'objectif de MSF en Afghanistan, à partir de 2001, ça a été de sauver des vies. Donc ça a l'air d'être un objectif très modeste, mais là où il est très ambitieux, c'est que, paradoxalement, cet objectif de sauver des vies, ou bien des vies directement affectées par le conflit, hein, les blessés issus du conflit lui-même, ou bien des victimes indirectes, victimes de la déliquescence du système de santé dû à la guerre, sauver des vies, ce n'est pas, dans ce contexte-là, la partie d'un grand tout, ce grand tout qui serait, et c'est comme ça que ça a été beaucoup présenté en 2001, notamment par l'armée américaine qui avait lancé cette opération de légitime défense Liberté immuable, ce n'est pas un grand tout qui consisterait à libérer l'Afghanistan du joug de la servitude des talibans, mis en déroute à partir de 2001, pour offrir à l'Afghanistan une société meilleure, plus juste, plus démocratique, plus stable, plus sûre, où les droits de l'homme et de la femme seraient respectés. Encore une fois, ce projet, aussi noble soit-il, et moi je me garderai bien de critiquer ce projet en tant que tel, ce projet, en quelque sorte, n'est pas compatible avec l'idée de sauver des vies ici et maintenant, comme se propose de faire une ONG humanitaire médicale. Pourquoi ? Parce que vouloir qu'une société se réforme en profondeur, c'est bien ce que le programme de amener la démocratie, restaurer un état de droit et promouvoir les droits de l'homme et de la femme en Afghanistan point du doigt. Vouloir faire ça, c'est porter un projet politique en tant que tel. Or, porter un projet politique de cette nature, quand on est dans un conflit armé, c'est prendre le parti d'une des parties au conflit. Or, pour une ONG médicale, humanitaire, prendre parti, donc prendre le parti d'un des belligérants, c'est se condamner à ne pas pouvoir intervenir dans les zones qui sont contrôlées par l'autre partie au conflit. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans la chronologie de l'histoire d'MSF en Afghanistan à partir de 2001, parce qu'elle est très... elle est très illustrative à cet égard. En 2001, l'opération donc Liberté immuable lancée par les Américains et relayée ensuite par les forces internationales coalisées autour d'elle mettent les talibans en déroute et très rapidement, l'Afghanistan se retrouve décrit comme un pays en reconstruction. Pour accélérer la reconstruction de l'Afghanistan, il y a une espèce d'injonction qui est faite à tous les acteurs autour de l'Afghanistan, les forces armées, les ONG, les compagnies privées, de mobiliser leurs efforts pour tenter d'étendre le plus rapidement possible et le plus fermement possible la légitimité du gouvernement de Karzai, hein, qui a pris la tête de l'Afghanistan à partir de 2001 et donc reconstruire le pays. En 2001, Colin Powell a fait un discours où il a interpellé les ONG en les appelant des multiplicateurs de force. Donc il y avait vraiment cette idée que tous les acteurs engagés en Afghanistan devaient unir leurs efforts pour ce même objectif dont je parle, un Afghanistan plus sûr, plus prospère, plus équitable et plus juste. Médecins sans frontières, à cette époque-là, était présent en Afghanistan et assez mal à l'aise avec l'idée de participer à cette entreprise pour les raisons que je viens d'évoquer. Parce que cette entreprise-là, aussi noble soit-elle, du point de vue des acteurs qui la promeuvent, reste une entreprise politique et que l'action que cherchait à faire MSF à l'époque, c'était de répondre aux besoins médicaux des populations. Or, à cette époque-là, une grande partie du territoire n'était pas accessible pour des raisons de sécurité. Et ce que les forces armées américaines et les forces armées coalisées ont tenté de faire, c'est d'étendre donc l'influence du gouvernement en cédant d'unités civiles aux militaires et en faisant des services de santé une vitrine mobile, en quelque sorte, de la légitimité du gouvernement de Karzai dans les territoires dans lesquels il tentait de se redéployer, de reconquérir. Cette idée vraiment de gagner les cœurs et les esprits à travers la fourniture de services de santé de base jusque dans les campagnes était au cœur de la politique défendue à l'époque par ces acteurs. Pour MSF, cette situation de malaise dans laquelle on se situait à cette époque-là a été tragiquement, en fait, c'est tragiquement terminé par l'assassinat de 5 de nos collègues en 2004 dans une province au nord de l'Afghanistan et qui a conduit très rapidement au retrait de Médecins Sans Frontières de l'Afghanistan. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des conditions de cet assassinat, mais ce qu'il est intéressant de constater à cet égard, à cette époque, c'est que on sait que l'assassinat de nos collègues n'est pas la responsabilité des talibans, et pourtant ce sont les talibans qui l'ont revendiqué à l'époque. Pourquoi les talibans l'ont revendiqué à l'époque? C'est qu'ils nous l'ont d'ailleurs quasiment expliqué en ces termes plus tard. C'est qu'à cette époque où ils étaient en déroute, en retraite, ce qu'il leur importait de faire valoir, leur intérêt propre, c'était de se mettre en scène comme des saboteurs de paix et comme ayant la capacité de nuire à ces faiseurs de paix dans lesquels ils plaçaient également les ONG. Et donc en revendiquant cet assassinat, même si ce n'est pas eux qui l'ont fait parce qu'ils n'en avaient tout simplement pas les moyens à l'époque, parce que géographiquement ils n'étaient pas dans la zone où nos collègues se sont fait assassiner, en faisant ça, ils utilisaient finalement la mort de nos collègues pour se donner la légitimité dont ils avaient besoin à l'époque, c'est-à-dire la légitimité de saboteurs de la paix. MSF est parti à cette époque, donc en 2004, immédiatement après l'assassinat, et n'est revenu qu'en Afghanistan en 2009. Et qu'est-ce qui a permis ce retour? Et c'est là que la question de la négociation intervient réellement et que vous allez mieux comprendre pourquoi j'évoquais cette incompatibilité d'agenda entre l'idée de sauver des vies et de s'associer à un grand tout. C'est que quand on est revenu en 2009, la situation avait changé. Les talibans, de faiseurs de troubles qu'ils étaient devenus pendant ces années-là, s'étaient réorganisés et avaient changé de stratégie, de tactique, et donc leurs intérêts étaient également différents. À partir de 2006-2007 déjà, ils ont reconquis une grande partie du territoire, reconquis, en tout cas gagné de l'influence à nouveau sur les territoires afghans, notamment sur les zones pachtounes. Et ils se sont positionnés, notamment à partir de 2008-2009, comme un gouvernement en exil, en revendiquant à nouveau une forme de responsabilité vis-à-vis de la fourniture de services de santé de base à leur population. Pourquoi ? Parce que, de la même façon que du côté de l'armée américaine et du gouvernement de Karzai, l'idée de fournir des services de santé de base à la population était considérée comme une manière de conquérir les cœurs et les esprits et d'asseoir sa légitimité sur la population, les talibans aussi ont voulu se positionner comme des autorités en mesure d'administrer une population, un territoire et de fournir ses services de base. Et c'est sur cette base fragile, sur cet espace de négociation rendu possible par leur changement de stratégie que MSF a pu revenir et commencer à nouer des contacts à nouveau avec les talibans, parce que de fait, sur la table, à nouveau, j'ai envie de dire, il y avait quelque chose dont on pouvait parler. Quelques années avant, ils nous avaient signifié que les humanitaires leur étaient plus utiles morts que vivants. Et là, ils nous laissaient entrevoir la possibilité de notre utilité, donc une utilité pour eux-mêmes, de notre utilité parce qu'en fournissant des services de base à la population avec leur accord, ils pouvaient se prévaloir d'être en partie responsable de la fourniture de ces services de santé. Donc, on a négocié avec les talibans notre retour en Afghanistan, Nous avons aussi négocié, évidemment, avec le gouvernement de Karzaï, notre retour en Afghanistan. Et donc, on s'est retrouvé, de fait, à négocier avec les deux parties au conflit la possibilité de revenir en Afghanistan, paradoxalement, à un moment où les autres ONG, qui, pour certaines d'entre elles, étaient parties, j'ai envie de dire, la fleur au fusil, dans cette entreprise dont je parlais tout à l'heure, cette entreprise de reconstruction d'un état de droit aux côtés des forces américaines et des forces internationales. Donc au moment où ces ONG-là, qui avaient fait ce choix-là, tout à fait respectable par ailleurs, mais qui avaient fait ce choix-là, se retrouvaient de fait en train de se plaindre d'un rétrécissement de l'espace humanitaire, alors qu'en fait, ce n'est pas l'espace humanitaire qui s'était réduit en Afghanistan entre 2006 et 2009, mais l'espace dans lequel une des parties au conflit avait le contrôle. Donc, de fait, les ONG qui avaient fait ce choix d'être embarquées du côté d'une des parties au conflit se retrouvaient avec des activités de plus en plus limitées sur une portion du territoire de plus en plus restreinte. Donc, paradoxalement, c'est au moment où beaucoup d'ONG ont déploré un rétrécissement de l'espace humanitaire, qu'une ONG comme Médecins Sans Frontières a pu revenir et au contraire déployer des activités dans les zones qui étaient restées inaccessibles pendant longtemps. Donc, ce faisant, on a négocié avec le ministère, avec le gouvernement de Karzaï, donc le gouvernement légitime reconnu comme tel, les talibans, mais aussi avec les forces internationales armées. Le premier programme qu'MSF a remis en place à son retour en 2009, c'est le soutien à un hôpital provincial dans la province de Helmand. Hôpital provincial qui avait été réhabilité par des unités civilo-militaires avec lesquelles il a fallu négocier quelque chose qui peut sembler simple à première vue, et pourtant il nous a fallu beaucoup négocier avec elle pour l'obtenir, c'est la démilitarisation des hôpitaux, de l'hôpital dans lequel on allait travailler. Parce que, de fait, on parle des intérêts des parties au conflit. Pourquoi les Américains, en l'occurrence c'était les Britanniques, mais avaient réhabilité l'hôpital? En partie, comme on le disait tout à l'heure, pour pouvoir fournir des services à la population et donc être dans cette logique de conquête des cœurs et des esprits, mais aussi, comme les équipes d'MSF l'ont constaté la première fois qu'elles sont allées visiter l'hôpital, parce qu'elles utilisaient l'hôpital tout simplement comme une salle d'interrogatoire des patients qui s'y trouvaient pour aller vérifier, demander, interroger les patients, savoir où se cachaient les talibans, etc. Donc évidemment, pour une ONG humanitaire dont un des enjeux est de s'assurer que les services qu'elle va fournir à la population vont pouvoir être accessibles au plus grand nombre, une des premières étapes de notre négociation, ça a été d'aller voir les forces armées internationales en leur demandant de sortir de l'enceinte de l'hôpital pour que les populations ne soient pas effrayées d'y venir chercher des soins, effrayées soit parce qu'elles allaient se faire interroger par les forces armées étrangères, soit parce qu'elles allaient subir les représailles de la part des talibans pour avoir été vues en train de discuter avec les forces armées américaines. Voilà. Je voulais pas, en vous évoquant ça, l'idée, c'est pas de dépeindre un peu une success story du retour de MSF en Afghanistan, c'est plutôt d'essayer de prendre vraiment la dimension concrète et pratique de ce que veut dire pour un acteur humanitaire négocier avec les parties au conflit dans des contextes comme ça. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire dans le livre Agir à tout prix, hein, encore une fois, pas se mettre en scène comme les parfaits petits négociateurs de l'action humanitaire. Ce n'est pas du tout un manuel de négociation à usage des humanitaires. C'est vraiment une tentative de faire preuve de réalisme, ce qui ne veut pas dire pour autant que quand on parle de négociation, on parle d'accepter évidemment tout ce que nous demandent nos interlocuteurs. Le cœur du livre tourne autour de la question de quel compromis peut-on passer avec les parties prenantes d'une situation et quels compromis sont acceptables au regard de ce que MSF se fixe comme objectif? Et là, j'en viens à l'objectif premier qui est, à la fois modeste et ambitieux, sauver des vies avec le souci, un souci d'impartialité, c'est-à-dire le souci de pouvoir répondre aux besoins des populations en fonction unique de notre lecture de leurs besoins, indépendamment de toute autre forme d'entreprise politique. Et cette question des compromis, qui est donc centrale au cœur du livre, ça ne veut pas dire que les compromis sont toujours possibles ou même que les compromis sont toujours souhaitables. Dominique parlait tout à l'heure de la situation en Syrie. Aujourd'hui, MSF travaille en Syrie de façon clandestine. Le gouvernement syrien, malgré nos demandes répétées, n'a jamais accepté que MSF travaille en Syrie et, a fortiori, travaille du côté de l'opposition où une grande partie de la population se trouve. Et donc aujourd'hui, MSF, on est réduit, j'ai envie de dire, à travailler de façon clandestine en soutien à des réseaux de médecins syriens, en fournissant également nous-mêmes des services de santé aux blessés, dans un contexte qui était aussi mentionné tout à l'heure, où être soignant en Syrie aujourd'hui, c'est non seulement... Il y a non seulement les difficultés associées classiquement, j'ai envie de dire, à ce type d'exercice dans une zone de guerre, mais qui se double en Syrie d'un autre phénomène qui est que les soignants et les structures de santé sont ciblées en tant que telles. Il y a une politique systématique de persécution et de destruction du personnel de santé et des structures de santé en Syrie qui rend évidemment les conditions d'exercice extrêmement difficiles, mais aussi l'idée même d'une négociation avec le gouvernement de Bachar el-Assad extrêmement compliquée, parce que voulez-vous négocier de ce point de vue-là avec le gouvernement quand le problème que vous voulez, que vous constatez sur le terrain reflète l'exacte volonté du gouvernement d'en finir avec la rébellion en s'attaquant systématiquement au personnel de santé, aux blessés pris en charge et aux structures de santé. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il est 1h10 et que peut-être qu'on peut s'accorder 10 minutes de questions. Dominique m'a dit que ça faisait partie des possibilités. Donc je ne sais pas si vous... Des questions, des remarques ?